Radio Kapi. Oh, Kapi. Jean-Désiré Kanyama pour le journal.
Au sommaire de ce journal, une embarcation en provenance de Kisangani avec une centaine de passagers à bord, immobilisée hier mercredi à Kinshasa. Selon les services de sécurité et de santé au port de Maluku, dans la partie est de la capitale, ce bateau transportait le corps d'une personne dont le décès est suspecté être lié à la maladie à virus Ebola. Et puis, ces rebondissements de l'enquête en rapport avec le meurtre de l'homme d'affaires Vali Amissi, ici à Kinshasa. Justicia Asbel, une organisation de défense des droits humains, demande aux autorités de garantir la sécurité de celui qu'elle considère comme le principal suspect arrêté auparavant à Brazzaville. 17e épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo avec la souche Bundibugyo. Plus de deux mois après, l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi est revenue sur ces sujets. Des extraits, des intervenants vous seront proposés à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour, bienvenue. Bonne écoute, une embarcation a résonné par les services de sécurité au port de Maluku. Nous sommes à l'est de Kinshasa, la capitale. Ces services de sécurité et de santé ont immobilisé hier mercredi à Kinshasa ce bateau en provenance de Kisangani avec une centaine de passagers à bord. Motif, il transportait le corps d'une personne dont le décès est suspecté être lié à la maladie à virus Ebola, ce qui a poussé les autorités à mettre en place un important dispositif depuis mardi soir. Objectif, empêcher les passagers du bateau de se disperser dans la nature avant les contrôles sanitaires. Reportage de Ronelline Tibonera Idi Amin.
Selon le directeur général de l'Institut National de Santé Publique INSP, c'est à hauteur de Bende Bende, avant son accostage au port de Maluku, que le bateau a été intercepté. Des éléments de force de sécurité, appuyés par les équipes d'experts de la santé, ont été déployés pour empêcher les passagers de quitter l'embarcation avant les opérations de contrôle. Le responsable de l'INSP précise que des mesures d'identification, de dépistage et de cantonnement ont été mises en place afin de détecter d'éventuels cas suspects. À cette occasion, Dieudonné Mwamba a appelé la population au calme et l'a invité à poursuivre normalement ses activités.
La population doit être assurée que les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de cas ici. Il est arrivé, c'est vraiment au niveau de Maluku qu'il a été intercepté avant même Maluku. Donc c'est par là que tous les passagers sont identifiés là-bas et suivis là-bas. Donc on a cantonné carrément cette embarcation là-bas.
Considéré comme un partenaire clé du gouvernement dans la riposte aux épidémies, l'Organisation mondiale de la santé OMS a également confirmé le déploiement de ses équipes dans la zone de Maluku. Ce dispositif répond à un double objectif. Outre cette embarcation soupçonnée de transporter les corps d'une victime d'Ebola, un autre navire en provenance de la province de l'Équateur, à bord duquel un décès lié au choléra aurait été signalé, devrait également être intercepté.
Et face à cet éventuel cas d'Ebola à bord de l'embarcation en provenance de Kisangani, un expert en santé publique opte pour un renforcement des mesures barrières dans la capitale. Dr Léon Kinoani appelle au respect des mesures universelles d'hygiène pour prévenir cette épidémie. Doyen de la faculté de santé publique à l'université Simon Kimbangu, ici à Kinshasa, il conseille notamment le lavage régulier des mains, l'abstention des contacts physiques et la prudence face à la consommation de viande provenant d'animaux trouvés morts. Dr Léon Kinoani est au micro de Blaise Dongala Mayanda.
Rien que l'hygiène alimentaire vous prévient à éviter un certain nombre de maladies. Pour celui qui ne mange pas tout ce qui lui tombe entre les mains, c'est déjà bien. Celui qui ne doit pas manger sans se laver les mains. Les mains, on se lave autant de fois par jour. Parce que ces virus ne se transmettent pas comme une génération spontanée. Il faut que vous ayez un contact étroit avec les facteurs de risque. Et dans les facteurs de risque, par ordre numéro 1, ne touchez pas à la viande qu'on vous a donnée comme ça, sans que vous sachiez elle vient d'où. Numéro 2, vous pouvez saluer les gens, mais il faut toujours se laver les mains. Numéro 3, quand vous allez à l'hôpital, sachez que vous êtes entré dans le cœur de maladie. Donc quand vous quittez l'hôpital, vous venez à la maison, avant de toucher aux autres, il faut vous laver, faut changer les habits. Vous avez été dans une société, vous avez été dans un bus, vous avez été là où vivent les autres humains. Ces brassages-là est source de maladie. Donc il faut, quand vous rentrez chez vous, adopter les mesures universelles d'hygiène. Si vous le faites, même si le cas d'Ebola est à côté de vous, vous ne l'aurez pas.
Et puis, ce coup de pouce des États-Unis face à la maladie à virus Ebola, 242 millions de dollars américains, C'est le montant que le gouvernement américain alloue pour soutenir les efforts de lutte contre cette épidémie en République démocratique du Congo et dans les pays voisins. C'est ce qui est noté dans un communiqué publié hier mercredi. Au total, l'aide directe des États-Unis consacrée à la lutte contre Ebola dépasse désormais les 512 millions de dollars. Les autorités américaines saluent en même temps les mesures prises par l'Ouganda pour limiter la propagation du virus. Les détails dans ce papier de Gisèle Cage, rendu ici par Nancy Atambo.
Avec cette nouvelle enveloppe, l'aide directe américaine à la lutte contre Ebola dépasse désormais 512 millions de dollars. Washington affirme rester le principal bailleur de fonds de cette riposte et appelle les autres partenaires internationaux à accroître également leur soutien. Selon les autorités américaines, ces financements permettent notamment de renforcer la surveillance épidémiologique, le dépistage aux frontières, la prise en charge des malades ainsi que la sensibilisation de communautés pour lutter contre la désinformation. Les départements d'État indiquent qu'à ces jours, les programmes financés par les États-Unis ont permis de réaliser 8,6 millions de dépistages, de sensibiliser plus d'un million de personnes, de soutenir 180 centres de santé et de renforcer les capacités de diagnostic des 11 laboratoires dans la région. Washington salue par ailleurs les mesures prises par l'Ouganda pour contenir la propagation du virus, tout en soulignant que l'évolution de l'épidémie en RDC demeure préoccupante et nécessite le maintien d'une mobilisation internationale soutenue.
Et toujours dans ce chapitre sanitaire, parlons de cette vive indignation sur la société civile à la suite de la découverte d'un fœtus dans la rivière Kalinda à Beni. Nous sommes au Nord Kivu. Le réseau d'accompagnement des femmes et filles pour un leadership émergent condamne ce qu'il qualifie d'acte criminel et appelle les autorités à faire toute la lumière sur ces dossiers. Cette organisation estime qu'il est urgent de renforcer les mécanismes de prévention des violences sexuelles et basées sur le genre, de lutter contre les grossesses non désirées et de faciliter l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Charline Masika-Wakine, chargée des communications de cette organisation, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Nous rappelons aux femmes et filles de Beni que l'avortement, c'est un acte criminel et punissable par la loi aux articles 165 et 166 du Code pénal congolais. Au lieu de provoquer un avortement, il y a lieu de prévenir la grossesse en demandant des conseils auprès des agents de santé, des assistants psychosociaux et structures de défense des droits des femmes et filles afin d'obtenir des conseils qui les aient livrés à ce genre d'actes criminels comme l'avortement. Nous profitons de rappeler qu'il y a urgence de renforcer les mécanismes de prévention contre les violences basées sur le genre, de lutter contre les grossesses non désirées, de faciliter l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'au soutien psychosocial pour les femmes et filles en situation de vulnérabilité, particulièrement dans les contextes de crise que traverse la région de Beni en province du Nord Kivu. Ensemble, nous devons nous engager pour bâtir une communauté où chaque vie est protégée et où les femmes et filles sont accompagnées avec dignité.
Rebondissement de l'enquête en rapport avec le meurtre de l'homme d'affaires Vali Amissi, ici à Kinshasa. Justicia Asbel, une organisation de défense des droits humains, salue l'arrestation à Brazzaville, en République du Congo, du principal suspect dans ce dossier. Tout en se félicitant de cette avancée, l'ONG demande aux autorités de garantir la sécurité de celui qu'elle considère comme la pièce maîtresse de cette affaire. Justicia Asbel insiste également sur la nécessité de préserver la confidentialité des éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire afin de favoriser l'éclatement de la vérité. Écoutons à ce sujet Timothée Mbouya, président de Justicia Asbel, au micro de Jean Gandou.
L'arrestation de Mukena Mwepu Beni, pour nous, est une très très bonne chose, dans la mesure où cela démontre que les services de sécurité transfrontaliers peuvent coopérer. Donc nous saluons cette collaboration entre les services de sécurité de la RDC et ceux du Congo-Brazzaville, et qui permet aujourd'hui de penser qu'il y a lieu de lutter ensemble contre l'impunité des crimes graves qui sont commis dans le pays de la sous-région, d'une part. Et de l'autre part, nous fustigeons quand même les faits que pour un dossier aussi sensible, on est diffusé, on est mis sur Internet des données qui suggèrent qu'une enquête est en train d'être menée avec risque que des éléments de preuve ou même des indices et des éléments indispensables pour l'enquête ne puissent être effacés. Nous demandons que les autorités les sécurisent pour éviter qu'ils ne soient manipulés ou qu'ils ne subissent des pressions de la part de personnes que lui-même qualifie de hautement placées qu'il aurait instrumentalisé pour commettre ces crimes-là.
Et page économique à présent, c'est parti avec la deuxième journée de clinique fiscale à Kinshasa. Au total, 152 entreprises participent à ces assises organisées par la Direction générale des impôts, DGI. Mission de ces cliniques, faciliter la compréhension et l'utilisation des nouveaux outils fiscaux numériques. Plus clairement, elles permettent aux entreprises de poser des questions et de résoudre leurs difficultés en vue de leur mise à jour. Jocelyne Moussaou nous donne d'autres détails.
Plusieurs partenaires techniques et institutionnels ont accompagné cette initiative aux côtés d'exposants spécialisés dans la facturation électronique, l'intégration des systèmes fiscaux et les services numériques. Des stands d'assistance et des démonstrations ont permis aux contribuables de tester les équipements, d'échanger avec les éditeurs de logiciels agréés et de bénéficier de l'appui des opérateurs télécoms. Ces cliniques fiscales sont des espaces d'aide mis en place par la Direction générale des impôts pour faciliter la compréhension et l'utilisation de nouveaux outils fiscaux numériques. Elles permettent aux entreprises de poser leurs questions, de résoudre leurs difficultés et de se mettre en règle plus facilement. Les principales préoccupations concernaient la mise en conformité avec la facture normalisée, l'activation des comptes sur la plateforme dématérialisée, l'homologation des systèmes de facturation et les problèmes de connectivité des dispositifs électroniques fiscaux. Selon la DGI, plusieurs difficultés ont été résolues sur place grâce à l'accompagnement des équipes techniques.
Et puis, plusieurs jeunes du Grand Kassai et du Bandundu refuse de céder à la galère, malgré l'exode urbain observé ces dernières années. En Mbujimayi, par exemple, les jeunes créent eux-mêmes des opportunités économiques pour subvenir à leurs besoins. Kiosques des bureautiques, vente des crédits, produits alimentaires ou lubrifiants. Ces initiatives montrent que tout n'est pas aussi noir dans ces provinces souvent présentées comme traversant d'énormes difficultés. Esther Ndalafina a rencontré quelques jeunes. Suivez son reportage.
En Mbujimayi, l'ingéniosité des jeunes redonne des couleurs à un paysage économique longtemps marqué par le chômage et l'exode urbain. Dans plusieurs quartiers, des nouveaux kiosques poussent, tenus par des jeunes qui ont décidé de se prendre en charge. Ils proposent des services de bureautique, vendent des crédits téléphoniques, des produits alimentaires ou encore des lubrifiants. Simon-Pierre Kefa est propriétaire d'une bureautique.
À travers cette activité, nous achetons aussi la nourriture.
Ces initiatives locales montrent que, malgré les difficultés, une nouvelle dynamique économique portée par la jeunesse est en train d'émerger. Christian Mouya s'est lancé dans le nettoyage des engins roulants depuis le début de cette année.
En mettant l'argent, je nettoie les véhicules, je nettoie les motos, même les mopettes.
Pour Bijou Binyanga, plusieurs autres activités, bien que modestes mais constantes, permettent de générer des revenus réguliers et de répondre aux besoins essentiels des CPR.
Toujours créer quelque chose de petit, même vendre la braise, même vendre de l'eau.
Pour beaucoup de jeunes, il s'agit d'une manière de rester digne, de refuser la fatalité et de prouver que les provinces du Grand Kassai et du Bandundu regorgent de potentialités. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et tout à fait autre chose à présent, les travaux de la revue annuelle de la province éducationnelle Kwilu 1 ont été officiellement lancés hier mercredi à Bandunduville par le gouverneur de la province. Des acteurs du secteur de l'éducation sont réunis pour évaluer les performances enregistrées au cours de l'année scolaire 2025-2026 et ensuite définir les pistes d'amélioration pour la prochaine année. C'est un reportage de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement rendu par Benjamin Moudoumbi Malabar.
Cette rencontre réunit les responsables du sous-secteur de l'éducation au niveau provincial et sous-provincial autour d'une évaluation globale des activités réalisées au cours de l'année scolaire qui s'achève. Les participants examineront notamment les résultats obtenus, les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives pour améliorer la qualité de l'enseignement. Les directeurs de province éducationnelle, Kwilu en Hervé Mungeta, revient sur les objectifs de ces assises.
Dans ce grand atelier, ça sera question d'évaluer les performances, de voir quels ont été les points négatifs, les points positifs, quelles seront les pistes que nous allons envisager.
Prenant la parole, le gouverneur de province du Kwilu, Philippe Akamituna, a exhorté les participants de bien se concentrer pour ressortir des bons résultats pour le bonheur des enfants du Kwilu.
J'attire votre attention de bien vouloir vous concentrer à l'essentiel en vue de donner les meilleurs de vous-même. Éviter les antivaleurs et autres comportements qui désavouent la personnalité humaine qui sont à la base de la dégradation du système éducatif actuel.
Pour rappel, cette revue se déroule simultanément dans les trois provinces éducationnelles du Kwilu.
Actualité internationale.
Au Sénégal, trois chroniqueurs proches du parti PASTEF, d'Ousmane Sonko, ont été condamnés mercredi à des peines de prison ferme par le tribunal de Dakar. Ils ont été reconnus coupables d'offense au chef de l'État et des discours contraires aux bonnes mœurs après la diffusion d'une vidéo dans laquelle ils appelaient au malheur et à la mort de celui qu'ils considèrent comme ayant trahi le projet du PASTEF, une formule largement interprétée comme visant le président Bassirou Diomaye Faye.
L'invité.
À Kinshasa, les services de sécurité et de santé ont arraisonné hier mercredi une embarcation en provenance de Kisangani, à bord de laquelle se trouvait le corps d'une personne décédée de la maladie à virus Ebola. L'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi a fait le point de la 17e épidémie à virus Ebola en RDC plus de deux mois après. Écoutons un extrait de l'intervention du docteur Joseph Kakisingi, coordonnateur national des fora des ONG humanitaires et de développement CONAFOD, plateforme regroupant plus de 600 organisations réparties sur l'ensemble de la RDC. Il est au micro de Donna Madimba.
Docteur Joseph Kakisingi, quelles pourraient être vos données à ce jour sur la maladie à virus Ebola dans les espaces concernés en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup. Comme vous l'avez bien souligné, je ne suis pas un officiel dans la gestion d'Ebola, mais je coordonne un réseau des 600 organisations réparties à travers le pays. Et parmi ces organisations, nous avons une sous-coordination à Nitouri, et une sous-coordination à Kisangani, donc dans la Tchopo, donc qui suit un peu ces choses-là. Par rapport aux statistiques, aujourd'hui, nous avions prévu, ou nous avions anticipé, en disant qu'Ebola risque de faire plus de cas si on ne fait pas attention. Donc aujourd'hui, on parle de 3500 ou au-delà de cas et de plus de 1700 morts. Mais ça, ce sont des cas qui arrivent dans les centres de traitement. Il y a plus de cas communautés qui ne sont pas... qui ne sont pas comptabilisés. Donc, on peut s'attendre peut-être à un double par rapport à ça. Parce que déjà, quand on regarde les statistiques publiées par les services habilités, vous voyez que plus de 59% des statistiques viennent des décès communautaires qui sont identifiés. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres décès qui ne sont pas identifiés. Et seulement, je pense, 41 ou 49% des cas qui meurent dans les centres de traitement. Donc, il y a un grand nombre de statistiques qui n'est pas connu. Et donc, ce qu'on présente aujourd'hui, par rapport à nos estimations, ça pourrait être peut-être la moitié.
Alors, à ce jour, la même question revient à chaque fois que nous faisons le point. Est-ce que, selon vous, nous avançons vers une solution probable ou bien la situation est enlisée, voire même critique dans l'échec?
J'ai risque de décevoir certains, mais je suis très pessimiste. Je pense qu'on ne maîtrise pas cette épidémie. Et on ne lui donne pas tous les sérieux nécessaires pour qu'on puisse la gérer correctement. Je donne un exemple. À deux semaines de la déclaration de l'épidémie, nous, notre réseau s'était réuni pour faire une évaluation. Et immédiatement, on avait dit, à ce stade ici, si on ne fait pas attention, ça va évoluer très vite. Et faire attention, c'est-à-dire quoi? Il faut impliquer immédiatement les volets communautaires pour qu'on puisse étouffer, la situation dans l'œuf. C'est-à-dire que pour faire une ceinture autour de ceinture communautaire autour des cas et empêcher la propagation. Donc la situation n'est pas soumise.
Alors, docteur Joseph Kakisingi, les solutions semblent exister quand on vous écoute et quand on prend en compte aussi beaucoup de vos prédécesseurs qui sont passés dans cette émission, parce que depuis l'épidémie, nous faisons régulièrement des points. Qui propose des solutions qui rejoignent les vôtres ou qui sont, selon eux, aussi efficaces que les vôtres? Mais si ces solutions existent et si la RDC a l'expérience de 16 autres épidémies déjà résolues, pourquoi ça ne s'applique pas et pourquoi on n'est pas dans une phase descendante en ce moment-ci?
Je pense que ça, c'est une très bonne question et on en a discuté beaucoup aujourd'hui. Vous savez, nous, on fait beaucoup de pression parce qu'on savait que les solutions qui existent ne sont pas connues. On a vu que les solutions sont vraiment connues. Aujourd'hui, quelle est l'erreur? On centralise tous les efforts sur les aspects médicaux, les centres de traitement.
Mais pourquoi? Pourquoi on n'applique pas ce qui doit être appliqué? Pourquoi?
Moi je pense que le problème vient de la coordination elle-même. Parce que la coordination est centralisée sur la santé et on oublie les autres volets communautaires qui sont plus importants. C'est comme ça que nous avions proposé, par exemple, au lieu que la coordination soit centrée sur le ministère de la Santé, qu'il soit centré sur la Première ministre, parce qu'il y aura plus de possibilités d'ajouter, par exemple, le ministère des Affaires humanitaires pour s'occuper des volets humanitaires et communautaires, qu'il y ait d'autres ministères intérieurs, je ne sais pas quoi. Et ça fait que ce n'est plus polarisé. Ça donne plusieurs possibilités d'agir. Et là, on ouvrirait un couloir pour les humanitaires de pouvoir s'occuper des volets communautaires et de pouvoir couper la chaîne de transmission. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le mécanisme mis en place devient un facteur de propagation.
Ce journal est à présent terminé. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.